Juges chapitre 8, verset 22 jusqu'à la fin du chapitre. Nous continuons notre série dans ce livre des Juges et nous arrivons à la fin de la vie de Gédéon. Juges chapitre 8, à partir du verset 22, et voici la parole de Dieu. Verset 22. Les fils d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod, et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête, et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérit pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Et jusque-là la parole de Dieu. Dieu a un principe général, un principe primordial pour son peuple, qui met tous les autres commandements à leur place. Il a dit aux Israélites un peu plus tôt dans leur histoire, en Deutéronome 10, verset 12, « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Et à cette même période de l'histoire d'Israël, Dieu leur a donné tout un ensemble de lois, des commandements multiples qu'il voulait que le peuple garde. Le Seigneur Jésus a cité ce même commandement quand un docteur de la loi lui a demandé quel était le plus grand commandement de la loi. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Bien entendu, Jésus a donné cette instruction à un juif qui vivait sous la loi de Moïse. Lorsque Jésus est mort sur la croix, il a amené à leur réalisation toutes les exigences de la loi de Moïse. Mais est-ce que cela veut dire que le peuple de Dieu ne doit plus aimer le Seigneur aujourd'hui? Bien sûr que non. Ceux que le Seigneur Jésus a délivrés de l'emprise du péché par son sacrifice sont redevables du même amour spécial envers lui que l'amour qui était exigé par la loi de Dieu. L'apôtre Paul écrit en 2 Corinthiens 5, verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » 2 Corinthiens 5, verset 14. C'est l'amour de Christ qui nous contraint, qui nous motive, qui nous pousse dans nos plans, dans nos désirs, dans nos actions, dans la vie. Cela peut dire que c'est l'amour de Christ pour nous qui nous presse. Mais cela peut aussi dire que c'est notre amour pour Christ qui nous presse. Et comparé au grand commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, on peut facilement conclure que d'une façon similaire, notre amour pour Christ nous garde dans une communion avec lui. Et ce principe primordial est d'une importance capitale parce que la vie nous offre tellement de distractions. Il est tellement facile pour nous de nous focaliser sur autre chose, même des choses qui sont bonnes en elles-mêmes, jusqu'à négliger notre amour et notre communion avec Christ. Et quand nous devenons aussi distraits, nous ne sommes plus tellement soucieux d'obéir à Christ, et nous nous éloignons naturellement de toutes sortes de péchés qui deviennent douloureux. Si le Seigneur, dans sa grâce, ne nous arrête pas dans notre rébellion, nous allons vers un désastre spirituel terrible, qui pourrait même se terminer en désastre physique. Et c'est ce qui est arrivé à Gédéon et aux siens. Dieu, par amour, nous l'avons vu, a délivré son peuple de ses ennemis d'une manière miraculeuse. Et dans la foulée de la délivrance que Dieu leur a accordée, Gédéon a conduit le peuple à faire quelque chose qui peut sembler innocent au début. Mais avec le temps, cette chose d'apparence innocente est devenue une distraction, de sorte que le peuple d'Israël est retourné se vautrer dans le péché, d'où l'Éternel les avait délivrés. Et nous devons donc apprendre de leurs erreurs et saisir l'importance de continuer à aimer le Seigneur à chaque instant. Premier grand point, une proposition innocente. On pourrait presque rajouter un point d'interrogation. Est-ce qu'elle est vraiment innocente? À partir du verset 22. Oui, l'Éternel est notre roi, et il utilise des gouvernants humains pour nous diriger. Et des guerriers qui connaissent le succès font de bons gouvernants, n'est-ce pas? C'est ce que pensaient les Israélites, verset 22. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Il y a quelque chose dans la nature humaine qui considère qu'un guerrier qui connaît le succès doit être un bon candidat pour être roi ou gouverneur. C'est peut-être l'évidence du courage ou la capacité à enrôler les autres ou la sagesse dans la planification en vue de remporter un succès. Dans beaucoup de pays, on admire ceux qui ont combattu, qui ont remporté des victoires pour défendre leur pays. Et donc pas surprenant de voir ces Israélites se rassembler autour de Gédéon, ce vaillant héros de guerre, pour lui demander d'établir une dynastie qui régnerait sur Israël. Ces personnes étaient sans doute des représentants des diverses tribus qui avaient été délivrées des incursions de Madian. Et à la surface, leur offre semble être quelque chose de noble. D'après le texte, personne n'a en fait suggéré que Gédéon règne en tant que roi. Tout le monde était supposé savoir que Dieu était roi. Et de plus, nous savons que Dieu n'allait pas donner de roi à Israël avant 150 ans, avec Saül. Et cependant, tout au sujet de cette offre que ces hommes font à Gédéon parle de règne, parle de royauté. Même s'ils ne demandent pas à Gédéon d'être leur roi, tout ce qu'ils disent parle de règne et de royauté. Le peuple offre une règle générationnelle qui exige que Gédéon, ses fils et même ses petits-fils règnent sur eux. Et manifestement, leur conception de royauté est déterminée par ce qu'avaient fait leurs voisins païens depuis longtemps. Israël n'avait pas de roi. Et l'auteur nous le répète. Ils ne cessaient de tomber dans le péché. Peut-être que s'ils avaient un roi comme leurs voisins, les choses seraient différentes. Peut-être pas. Parce que les voisins ne donnaient pas l'impression d'être des saints. Et même si le peuple n'a pas demandé à Gédéon d'être le roi, ils ont quand même proposé de le suivre s'il devenait leur gouverneur, leur dirigeant. Cette offre était simplement une récompense pour les grands exploits accomplis par Gédéon, mais ça, en tant que tel, révèle un mauvais esprit, un cœur distrait chez le peuple. Ils ont demandé à Gédéon de régner sur eux, car tu nous as délivrés de la main de Madian, verset 22, à la fin du verset 22. Alors il est vrai que c'est Gédéon qui a appelé les soldats à la bataille, que c'est Gédéon qui leur a montré ce plan bizarre pour gagner la bataille. C'est Gédéon qui les a amenés à la victoire. C'est Gédéon qui a puni les chefs de Madian à Succoth, qui a tué les habitants de Penuel. C'est Gédéon qui a tué les deux rois de Madian. Oui, c'est bien Gédéon qui semble être au centre de toute l'attention ici. Mais quand le peuple a mis l'accent sur le serviteur de l'Éternel, il est arrivé à une mauvaise conclusion. Ce n'est pas Gédéon qui a accompli ces choses aussi grandioses. C'est Dieu, l'Éternel, Dieu seul, qui a remporté la victoire sur l'armée immense de Madian. Et en fait, Dieu, qui connaît la tendance de l'homme à exalter d'autres hommes, a beaucoup fait pour éviter cette conclusion. Rappelez-vous, quand Dieu a rétréci l'armée de Gédéon, chapitre 7, verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Pourtant, c'est exactement ce qui est arrivé. Comment cela? Peut-être que Gédéon a sa part de responsabilité. Rappelez-vous ce que Gédéon a dit aux 300 soldats quand il leur a montré le plan de bataille, chapitre 7, verset 18. « Quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz « pour l'Éternel et pour Gédéon ». Est-ce que c'était vraiment nécessaire de crier « et pour Gédéon » ? Quand les gens commencent à mettre l'accent sur le serviteur de Dieu, Dieu est finalement oublié. Parfois, Dieu peut bénir l'œuvre de son serviteur et le serviteur va chercher en toute sincérité à garder l'attention sur Dieu. Parfois, quand Dieu bénit, les gens finissent par exalter le serviteur, alors que ce qu'ils voulaient faire, c'était simplement de lui montrer leur respect, leur appréciation. Parfois, ce sont les serviteurs de Dieu qui dérobent Dieu de sa gloire en attribuant de façon subtile leur succès à leurs propres efforts. Il est très facile pour nous de glisser, de mettre l'accent non plus sur Dieu, mais sur le serviteur de Dieu. Et ce sera une distraction qui aura éventuellement de sérieuses conséquences. Oubliez Dieu, alors que nous mettons l'accent sur des instruments humains que Dieu a utilisés, va nous amener tôt ou tard dans le péché. Le peuple a fait une offre généreuse à Gédéon. Et au départ, Gédéon a répondu de la bonne manière à cette offre. Verset 23, Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous. Mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » À première vue, cela apparaît comme une réponse triple de Gédéon. « Je ne dominerai pas sur vous. Mes fils ne domineront pas sur vous. L'Éternel dominera sur vous. » Et à ce stade, on a vraiment l'impression que Gédéon refuse résolument de créer la première dynastie qui régnerait sur Israël, parce qu'il est convaincu que c'est l'Éternel qui est le roi. Rappelons-nous que Gédéon était l'homme qui avait cherché à argumenter avec Dieu pour ne pas être le libérateur choisi. Il n'avait aucune aspiration à devenir le roi ou le gouvernant à ce moment-là. Dans son parcours, il a appris des leçons incroyables au sujet de la foi dans son cheminement avec Dieu. Oui, Gédéon est un serviteur de Dieu humble et sincère. Mais on sait aussi, à partir de cette histoire, qu'il y a d'autres situations qu'il faut prendre en compte. Est-ce que Gédéon a démontré une vengeance personnelle contre les habitants de Succoth et de Pénuel? Il y a peu de doute que Gédéon ait tué les deux rois de Madian par vengeance personnelle, et il a révélé sa nature humaine dans ces situations. Mais avec ce refus de cette offre, Gédéon reconnaît encore que l'Éternel était roi sur son peuple. Oui? Peut-être. Avant que le serviteur de Dieu ne sombre dans le désastre, il y a généralement des signes qui indiquent un échec imminent. Quand le peuple a glorifié Gédéon pour ses succès militaires, pourquoi Gédéon ne les a-t-il pas corrigés? Pourquoi Gédéon n'a-t-il pas dit « Oh là, attendez les gars, ce n'est pas moi qui vous ai délivré de Madian, c'est l'Éternel qui l'a fait. » Pourquoi Gédéon ne les a-t-il pas corrigés? Il est simplement possible que Gédéon était comme les autres serviteurs de Dieu qui disent des choses correctes, même quand leurs cœurs sont distraits par d'autres choses. Il est intéressant de voir dans cette petite histoire comment un homme a tellement mis l'accent sur ses incapacités, son insignifiance, il n'était un moins que rien d'une tribu insignifiante. Comment il a mis l'accent sur son manque d'ambition, qu'il a argumenté pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Dieu a finalement convaincu cet homme, lui a enseigné un grand nombre de leçons de la foi. Il s'est révélé à lui comme le Dieu Tout-Puissant. Il a apporté la victoire à travers cet homme réticent. Et avant même qu'on le sache, cet homme humble, insignifiant, est en train de dérober Dieu de sa gloire, parce qu'il met l'accent sur lui-même. Peut-être que le souci de soi était le problème au départ. Gédéon refuse l'offre d'établir une dynastie. Il rappelle au peuple que c'est l'Éternel qui est leur roi. Mais en même temps, Gédéon agit comme s'il était le roi. Après avoir dit qu'il ne voulait pas avoir cette responsabilité, Gédéon lance un appel pour une offrande volontaire, verset 24. Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Gédéon savait que les 300 guerriers et toutes les autres personnes qui s'étaient jointes à eux pour poursuivre et pour vaincre l'ennemi, ils savaient qu'ils avaient rassemblé beaucoup de butin de Madian. Immédiatement après avoir refusé de devenir leur roi, Gédéon demande une offrande d'une partie du trésor que le peuple avait gagné. Pourquoi? Quel était son plan? Une chose est certaine, c'est qu'une offrande volontaire qui lui était donnée serait un signe de soumission. Chaque roi dépend de la soumission de ses sujets. Et nous savons, et nous allons voir dans le reste de l'histoire, ce que Gédéon allait faire avec cette offrande. Mais même la fabrication de l'éphod est une question de porter l'attention sur lui-même. On va revenir sur l'éphod dans quelques instants. Et le peuple a participé volontairement à cette offrande, versets 25 et 26, et ils dirent « Nous les donnerons volontiers !» Et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 sicles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Quand le peuple s'est mis d'accord de donner volontairement, ce n'était pas des paroles en l'air. Ils ont donné des bijoux dont le poids était de 1700 sicles d'or, environ 27, presque 28 kilos. Et au prix de l'or aujourd'hui, c'était un trésor d'une valeur estimée à plus de 1,3 million d'euros. Ça ressemble beaucoup à la rançon d'un roi. Et tout cela a été rajouté à la collection personnelle de Gédéon, fin du verset 26. Les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Quelle est la conséquence de cette proposition? Deuxième grand point. Les cœurs partagés sont révélés à partir du verset 28. Dieu a béni la nation malgré ses distractions. Parce que le peuple était distrait, leur cœur n'était plus fixé sur Dieu. Ou alors c'est l'inverse. Parce que leur cœur n'était plus fixé sur Dieu. Ils étaient distraits. Et la distraction dont on parle trouve son origine dans l'action de Gédéon. Verset 27. Gédéon en fit de tout ce trésor qu'il a amassé. Il en fit un éphod. Et il le plaça dans sa ville à Ophra, où il devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. L'éphod était quelque chose de bien connu parmi le peuple d'Israël. Dieu avait donné l'ordre à Moïse de faire fabriquer un éphod bien spécifique pour le souverain sacrificateur. Il devait être tissé dans un matériau spécial, avec de belles couleurs, et même inclure l'or. Le souverain sacrificateur portait cet éphod par-dessus ses habits, pendant qu'il accomplissait son ministère devant l'Éternel dans le tabernacle. Les noms de chaque tribu d'Israël étaient inscrits sur l'éphod. Et sur le devant, il y avait aussi une poche qui contenait l'urim et le thummim que le souverain sacrificateur utilisait dans certaines circonstances bien spéciales pour déterminer quelle était la volonté de Dieu. On n'est pas sûr si c'était des pierres ou des pièces que le souverain sacrificateur lançait, et en fonction de comment elles tombaient, il avait la réponse, qu'elle était positive ou négative. Et il considérait que c'était la réponse venant de Dieu. Mais qu'est-ce que Gédéon allait faire avec cet éphod? Est-ce qu'il avait l'intention d'avoir un ministère de sacrificateur en même temps que de gouverner sur le peuple? L'éphod était aussi utilisé dans les pratiques religieuses des païens. Des hauts dignitaires, des officiels, parfois des rois, portaient des éphods à des moments des fêtes religieuses, des fêtes nationales. Et les dirigeants des religions païennes allaient revêtir un éphod quand ils adoraient ou quand ils offraient des sacrifices à leurs faux dieux. Mais la pire pratique était de localiser l'éphod dans un endroit bien précis, où très souvent l'éphod recouvrait une idole, recouvrait la représentation d'un faux dieu. Et Gédéon plaça cet éphod dans sa ville, qui est devenue un lieu de culte rival au tabernacle. Gédéon voulait que le peuple vienne vers lui pour trouver conseil, pour voir sa ville comme étant le lieu où l'on pouvait trouver Dieu, alors que Dieu rencontrait son peuple au tabernacle. Gédéon a utilisé Dieu pour consolider sa position, plutôt que d'utiliser sa position pour servir et être utilisé par Dieu. Le résultat, on le lit au verset 27. L'éphod devint l'objet des prostitutions de tout Israël. Et cette expression décrit souvent le peuple d'Israël qui renie Dieu, qui renie l'Éternel pour courir après les idoles et après les faux dieux. C'est devenu un piège pour Gédéon et pour sa famille. Cela nous pousse à nous demander si Gédéon n'a pas rebâti l'idole de Baal qu'il avait détruite au début de l'histoire. Ophra, la ville, est devenue un centre pour le faux culte en Israël. Et l'image est tellement triste parce que on l'a vu se répéter trop de fois. Quelqu'un, visiblement, vient au Seigneur Jésus par la foi, confesse ses péchés, se repent. Mais avec le temps, cette personne ne se concentre plus sur Dieu. Elle ne marche plus dans une communion avec le Seigneur. Et le péché redevient le maître. L'apôtre Pierre décrit ce problème dans des termes assez crus, 2 Pierre 2, verset 22. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Pierre 2, verset 22. Et pourtant, au milieu de ce contexte, de tous ces échecs de la part des hommes, Dieu a donné la paix et le repos au pays. Verset 28. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël, et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant 40 ans, durant la vie de Gédéon. Mais cette paix était compromise. C'était une paix sans le véritable culte de Dieu, sans obéissance. Ces paroles nous rappellent que Dieu est incroyablement patient. Mais cependant, Dieu met des limites sur le temps qu'il endurera la rébellion de son peuple. C'est la dernière référence dans le livre des Juges où on lit que Dieu a donné une période de repos au peuple. La dernière référence dans tout le livre. Le cycle de péché, oppression, conviction, conversion, repentance, de crier à Dieu, de connaître la délivrance, de connaître le repos et de retomber dans le péché. C'est un cycle qui ne fait que mener vers le bas dans la désintégration spirituelle. Et la fin de cette désintégration spirituelle ne sera douloureusement évidente quand on étudiera l'histoire du Lévite qui découpa le corps de sa concubine pour envoyer les différents morceaux dans tout le pays. Juges, chapitre 19. À quelle distance se trouve notre monde occidental d'une telle anarchie? Étant donné que nous continuons de rejeter Dieu, d'adorer les faux dieux de notre imagination. Est-ce que nous connaissons quelqu'un qui est pris dans ce cycle de désintégration quand on voit le péché qui ruine leur vie, pas après pas? Dieu est patient, n'est-ce pas? La sagesse humaine arriverait à la conclusion que Dieu a béni Gédéon malgré son dévouement un peu mou. Mais en fait, ce qui semble apparaître comme étant la bénédiction de Dieu est en fait le résultat de l'ambition et des efforts de l'homme. Gédéon a manifesté son égocentrisme, il était centré sur lui-même. Il n'y a rien de mal à ce que Gédéon vive dans sa maison, n'est-ce pas? Verset 29. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Mais pourquoi l'auteur a-t-il pris le temps d'énoncer quelque chose d'aussi évident? Gédéon demeura dans sa maison. Tout d'abord, considérez le nom que l'auteur donne ici. Il ne l'appelle pas Gédéon. On se rappelle en Juges 6, verset 32, que Jérubal veut dire que Baal plaide contre lui. Est-ce que Satan, à travers le faux dieu Baal, était en train de plaider contre Gédéon et de gagner? De plus, c'est le seul endroit où on a l'expression complète « Jérubal, fils de Joas ». Ça semble être un nom de roi, la tête d'une dynastie. Dans toute l'histoire, quand Dieu était à l'œuvre pour faire quelque chose de spécial à travers l'homme, il est appelé Gédéon. Mais de cet endroit jusqu'à la fin du chapitre 9, le nom de Jérubal a des connotations de royauté, de dynastie. Ensuite, la phrase « demeura dans sa maison » veut dire bien plus que l'on imagine. Le mot hébreu pour « demeurer » veut littéralement dire « s'asseoir, être assis ». Ce mot est souvent utilisé pour parler du roi qui est assis sur son trône, c'est-à-dire qu'il s'est emparé du règne sur le peuple. On peut conclure très honnêtement que Gédéon s'est détaché de la maison de son père. Il s'est assis en tant que roi dans sa propre maison, à l'endroit où il avait dressé l'objet du faux culte. C'est pas tellement différent de l'image de l'Antichrist en Daniel et dans l'Apocalypse, qui met son image dans le temple de Dieu et s'assoit comme gouverneur pour remplacer Dieu. Et enfin, on peut tous convenir que Gédéon n'avait pas besoin de beaucoup de femmes. Pourtant, verset 30 nous dit « Gédéon eut 70 fils issus de lui, car il eut plusieurs femmes ». Et en fait, la collection de femmes, c'était ce que faisaient les rois. Nous savons d'après la Bible que la plupart des rois dans l'Ancien Testament avaient plusieurs femmes, dans le but d'avoir un grand nombre de fils. Bien entendu, cette pratique était à l'opposé du plan de Dieu et de son commandement pour un homme de n'avoir qu'une seule femme. Et Gédéon, il nous a dit, avait une concubine, verset 31. Sa concubine était à Sichem, lui enfanta aussi un fils, à qui on donna le nom d'Abimélec. Abimélec est cité à cause de tous les ravages qu'il va provoquer en Israël. Mais c'est aussi significatif que le nom d'Abimélec veut dire « mon père est roi ». Et Abimélec va interpréter cette idée de façon littérale et va argumenter quelques années plus tard qu'il avait un droit légitime de reprendre le règne de son père, Juges chapitre 9, les premiers versets. Et si Gédéon n'était pas en train d'agir comme roi, il n'y avait pas de règne, et donc il n'y avait aucun droit de reprise qui serait valide. Et bien qu'il donne l'impression de rejeter l'offre du peuple, de devenir leur roi, Gédéon a agi comme un roi et a enfreint toutes les règles de Dieu en agissant ainsi. Dieu n'a jamais choisi Gédéon pour être roi. Mais Dieu avait donné des instructions à Moïse au sujet des directives pour le roi quand il serait temps pour Israël d'en avoir un. Nous lisons cela en Deutéronome 17, des versets 14 à 20. Deutéronome 17, à partir du verset 14, « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu auras établi ta demeure et que tu diras « Je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi le roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point, et qu'il ne fasse pas de grands amas d'argent et d'or. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra l'avoir avec lui, et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes les ordonnances. Afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas, et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Gédéon a commis un grand nombre d'erreurs dans sa vie. Mais il eut une fin heureuse, verset 32. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse, et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Une vie longue était considérée comme une bénédiction de la part de Dieu. Être enterré avec ses proches était une bénédiction de la part de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que Dieu approuvait les échecs de Gédéon et du peuple d'Israël. Et Gédéon et le peuple avaient échoué misérablement. Et Dieu n'est pas surpris par cet échec. Quand le peuple rejette Dieu, ce n'est pas une surprise pour Dieu. Nous lisons verset 33. Lorsque Gédéon fut mort, certaines traductions nous disent « dès que Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérite pour le Dieu. » Baal-Bérite veut dire le Seigneur de l'Alliance. Au lieu d'être fidèle au Dieu de l'Alliance, à l'Éternel, le peuple a fait alliance à une idole à qui il a donné le nom le Seigneur de l'Alliance. C'est terrible. Et cela ne devrait même pas nous surprendre, parce que lorsque Gédéon était encore vivant, le peuple courait après l'éphod qu'il avait fabriqué pour l'adorer. Cette culture était prise dans une spirale descendante, allant de déclin à l'apostasie. Et toute culture qui se dirige vers l'apostasie oubliera les bénédictions de Dieu. Les compatriotes de Gédéon ne se sont pas rappelés que c'était l'Éternel qui les avait délivrés de leurs ennemis. Verset 34. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur Dieu qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. C'était clair au début quand ils ont attribué la victoire à Gédéon. Et cela arrive très facilement quand des chrétiens professants oublient qu'ils ont la délivrance du péché et la victoire sur le péché, non pas par leur force et par leur sagesse, mais seulement en Dieu, par Jésus-Christ. Les compagnons de Gédéon ont aussi oublié comment Dieu les avait délivrés. Verset 35. Ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Dieu avait choisi d'utiliser Gédéon, et le peuple aurait dû avoir de la gratitude envers sa famille. Combien nous devons élever des pierres de témoignage dans nos vies pour nous rappeler quand et comment Dieu nous a délivrés de notre péché. Qu'est-ce qui est plus triste qu'une histoire d'un serviteur de Dieu qui a eu du succès et qui ne se termine pas bien? Les serviteurs de Dieu sont humains. Ils sont sujets à toutes les faiblesses que n'importe quel humain peut connaître. Les faiblesses qui causent l'échec ne peuvent être surmontées que lorsque l'on reste concentré sur Dieu, lorsque les regards sont fixés sur les choses d'en haut et non sur les choses de ce monde. Quand nous établissons des idoles, même si ces idoles s'appellent ministères, quand on établit des idoles, on détournera notre attention de Dieu. On ne sera plus focalisé sur lui. Et ce sera le début de la descente. La distraction mène au désastre. C'est pour ça que l'apôtre Paul exhorte dans ce passage que nous avons lu au Colossiens chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Colossiens 3, versets 1 à 4. C'est aussi une bénédiction pour nous de pouvoir regarder à celui dont chaque juge est une ombre, pour voir comment il a utilisé sa position. Et contrairement à Gédéon, Jésus avait tous les droits d'exiger qu'on le serve comme roi. Contrairement à Gédéon, Jésus est le tabernacle. Il est l'habitation ultime de Dieu sur terre. Mais il a résisté à la tentation de régner avec puissance sur les nations. Il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il nous a rachetés de nos réactions auto-honorantes face au succès. Il nous a rachetés de nos réponses auto-haïssantes face à l'échec. Il a utilisé sa position de Fils de Dieu pour nous donner la liberté de ne plus rechercher le respect, de ne plus être écrasé par un manque de respect. Il nous a rachetés pour être à lui. Et contrairement à l'éphod, le Seigneur Jésus-Christ est le seul que nous devons adorer. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses, qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.